Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 13h à Paris.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous.
Avec à la une, la guerre au Moyen-Orient, 26e jour de conflit.
La grande interrogation concerne d'éventuelles négociations entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump annonce un plan de paix en 15 points. Téhéran dément toute discussion et sur le terrain, les frappes se poursuivent. Nous verrons également que les États-Unis continuent d'envoyer des renforts sur place.
La guerre des drones, toujours plus intense entre l'Ukraine et la Russie.
400 drones ukrainiens abattus cette nuit par l'armée russe. Une riposte ukrainienne à l'une des plus grosses attaques de drones russes sur l'Ukraine en plein jour depuis le début de la guerre.
Une décision historique, le géant des réseaux sociaux Meta condamné pour mise en danger de mineurs aux États-Unis.
375 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir mis en danger de très jeunes utilisateurs de ces plateformes en les exposant à des contenus à caractère sexuel.
En France, Rachida Dati règle ses comptes après sa débâcle dans la course pour la mairie de Paris.
Elle accuse le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, d'avoir fait une campagne contre elle et pas pour les Parisiens et dénonce la trahison de Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon Renaissance.
Et puis on terminera ce journal en musique.
Avec de l'électro new-yorkaise et le tout premier album qui va sortir dans deux jours, de l'album de Fuckers.
RFI Midi.
26e jour de guerre donc entre les États-Unis et Israël et l'Iran. Les frappes se poursuivent, Olivier.
La marine iranienne dit ce midi avoir tiré des missiles en direction d'un porte-avions américain. Le porte-avions USS Abraham Lincoln a donc été contraint de modifier sa trajectoire après ses tirs de missiles de croisière tirés depuis la côte iranienne. L'Iran annonce aussi des tirs de missiles vers Israël, Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. Un réservoir de carburant de l'aéroport international de Koweït a pris feu après avoir été visé par une attaque de drone dans la nuit. L'armée israélienne de son côté a frappé deux sites de production de missiles de croisière navale à Téhéran. Ces installations servaient à développer et fabriquer des missiles de croisière à longue portée capables de détruire rapidement des cibles en mer et sur terre, selon l'état-major israélien.
Et en ce qui concerne la diplomatie, le doute subsiste encore concernant d'éventuelles négociations.
Ah, Donald Trump dit être en discussion avec l'Iran. Les États-Unis négocient avec eux-mêmes, affirme de son côté un porte-parole de l'armée israélienne. Alice Froussard, bonjour.
Bonjour.
Sur le plan diplomatique, donc, le fossé est profond, tellement les diplomaties des deux belligérants semblent antinomiques.
Oui, c'est une oscillation permanente entre confrontation stratégique et dialogue avorté. Les États-Unis comme l'Iran restent campés sur leur position. Selon les informations de plusieurs médias américains, dont le New York Times, Washington, via le Pakistan, a transmis à Téhéran un plan en 15 points visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. C'est un signe de la volonté de l'administration Trump à trouver une issue au conflit. Impossible, en revanche, de savoir dans quelle mesure ce plan a été diffusé largement parmi les responsables iraniens, ni si l'Iran est susceptible de l'accepter, ne serait-ce que comme une base de négociation, car pour l'heure, Téhéran n'a pas confirmé la moindre discussion.
Et malgré des signaux d'ouverture fragiles, donc l'escalade militaire reste encore possible.
Oui, car les bombardements continuent en même temps que les messages diplomatiques au risque d'une dégradation rapide de la situation globale et les déclarations divergent. Est-ce donc pour les États-Unis une façon de gagner du temps, de chercher une sortie digne à cette guerre aux répercussions économiques grandissantes? S'agirait-il au contraire d'une stratégie iranienne classique qui consiste à dissocier communication publique et diplomatie réelle? L'Iran pourrait aussi avoir du mal à répondre rapidement aux sollicitations américaines. Les hauts responsables iraniens peinent à communiquer en interne. Ils craignent des représailles israéliennes en cas de rencontre. Ça a été le cas au tout premier jour de la guerre.
Et dans ce contexte, les États-Unis envoient des renforts au Moyen-Orient. Washington renforce sa présence militaire dans la région avec l'arrivée prochaine d'environ 3000 parachutistes. On ne parle pas d'envoi de troupes au sol, mais ces renforts arrivent dans les prochains jours sur place. Explication de notre correspondant aux États-Unis, Vincent Souriau.
Ce sont des soldats de la 82e division aéroportée, une unité d'infanterie spécialisée dans les assauts aériens et la sécurisation de sites sensibles. À ce stade, il n'est pas question de déployer des troupes au sol. Mais le Pentagone se dote d'une force de réaction rapide, puisque ces militaires sont mobilisables très vite sur des terrains difficiles. Ils ont par exemple participé à l'évacuation de Kaboul en août 2021. Et ce sont déjà ces mêmes parachutistes que Washington avait fait venir au Proche-Orient en 2020. 2020 par mesure de précaution après l'assassinat ciblé du général iranien Qassem Soleimani. À l'époque, ils avaient été stationnés au Koweït. On ignore pour l'instant où ils seront cantonnés cette fois-ci, mais ils devraient arriver dans la région d'ici moins d'une semaine et ajouter leurs forces à celles des milliers de Marines que les États-Unis ont fait converger autour du Golfe Persique. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et au Liban, la guerre fait rage également entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. L'armée israélienne dit avoir démantelé des centres de commandement du Hezbollah et un dépôt d'armes dans le sud du Liban et avoir tué plusieurs combattants du mouvement pro-iranien. Le Hezbollah, de son côté, affirme avoir attaqué un char et des soldats israéliens près de la frontière et tiré un barrage de roquettes vers Kiryat Shmona dans le nord d'Israël. À suivre tous les développements sur cette guerre au Moyen-Orient avec le live sur RFI.fr et des reportages et analyses sur le Liban et Gaza. Cette guerre inquiète le monde. En Europe, des voix s'élèvent contre ce conflit, comme en Espagne. Après plus de 3 semaines de frappe, le chef du gouvernement espagnol de gauche, Pedro Sanchez, s'inquiète de l'issue du conflit. Il s'exprimait ce matin devant le Congrès des députés.
Y en esta ocasión una guerra...
Il s'agit d'une guerre illégale, absurde et cruelle qui nous éloigne encore davantage de nos objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Nous disons non à la violation unilatérale du droit international. Nous disons non à la répétition des erreurs du passé. Nous disons non à la dissimulation de la cupidité et des calculs politiques sous couvert de démocratie. En bref, nous disons non à la guerre. Nous ne sommes pas confrontés à la même situation qu'avec la guerre illégale en Irak. Nous sommes confrontés à quelque chose de bien pire, avec un impact potentiellement beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond.
Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, devant le Congrès des députés espagnols ce matin. Autre guerre, autre front, cette fois entre la Russie et l'Ukraine. La guerre des drones, toujours plus intense entre les deux pays. Ce mercredi, Moscou dit avoir abattu près de 400 drones ukrainiens qui ont notamment touché un important port dans le golfe de Finlande, loin du front. Une riposte ukrainienne à l'une des plus grosses attaques de drones russes sur l'Ukraine en plein jour depuis le début de la guerre, Sarah Krakowicz.
Oui, la réponse ukrainienne à la Russie était attendue. Ces régions frontalières avec l'Ukraine, les alentours de Moscou ainsi que l'oblast de Leningrad dans le sud-ouest du pays ont été visés par les drones ukrainiens cette nuit. Les autorités russes ont annoncé 56 drones abattus au-dessus de la région de Leningrad à plus de 1000 km de l'Ukraine. Autre attaque d'ampleur, le port d'Oust-Louga sur la mer Baltique, près de la frontière russe avec l'Estonie. Les drones ont déclenché un incendie dans cet important port d'exportation russe de pétrole, d'engrais et de charbon. Volodymyr Zelensky avait dénoncé la dépravation absolue de la Russie après l'une des pires attaques aériennes sur l'Ukraine hier en plein jour. Le centre historique de Lviv et des habitations dans l'ouest de l'Ukraine ont notamment été frappés. Un millier de drones envoyés sur toute l'Ukraine, faisant 8 morts au total. Cette nuit encore, l'armée de l'air ukrainienne a dit avoir abattu 121 des 147 drones lancés par la Russie.
Et un coup dur pour l'Ukraine. La Hongrie va progressivement suspendre ses livraisons de gaz naturel vers l'Ukraine jusqu'à ce que l'approvisionnement en pétrole brut via l'oléoduc Druzhba reprenne. C'est le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui vient de l'annoncer. Cet oléoduc alimentait la Hongrie en pétrole russe via l'Ukraine.
On va parler environnement maintenant avec une question. Peut-on anticiper les vagues de chaleur humides, se préparer, limiter leur impact sur les populations?
C'est ce que suggèrent des chercheurs de l'Institut de recherche sur les impacts climatiques de Potsdam, de l'Université de Princeton aux États-Unis et de l'Université Sun Yat-sen dans le canton de Chine. Dans un article publié ce mardi dans le journal scientifique Nature, jusqu'à présent ce phénomène qui touche surtout les régions tropicales était mal compris. Selon les chercheurs, c'est en observant l'océan qu'on pourrait le prévoir. Jeanne Richard.
Les vagues de chaleur humide se multiplient avec le changement climatique et elles sont bien plus dangereuses que de simples canicules, explique Dieter Gerten du Potsdam Institute.
C'est une combinaison de température et d'humidité élevée. Si la température dépasse un certain seuil, 32 à 35 degrés, et que l'air est très humide, il est impossible de refroidir le corps en transpirant. Si vous êtes exposé à ces conditions pendant plusieurs heures, cela affectera gravement votre corps et ça créera des problèmes de santé. Les gens peuvent même mourir s'ils restent plus longtemps dans ces conditions.
Selon l'étude, le réchauffement de zones bien précises de l'océan est à l'origine de plus de la moitié de ces vagues de chaleur humide dans le monde.
Cette humidité doit bien venir de quelque part et c'est l'évaporation des océans qui est transportée par le système de vent jusqu'aux terres. Et ça se combine alors à des canicules. L'humidité peut voyager sur près de 1000 km comme ça. Si on mesurait la température des océans dans les endroits où on sait que ça peut avoir un impact plus tard sur Terre, ça pourrait être considéré comme un signe précurseur ou un signe d'alerte précoce pour les vagues de chaleur humide.
L'étude de ce phénomène pourrait donc sauver des vies, selon le chercheur.
Jeanne Richard, une première pour un réseau social, Meta a été condamné pour mise en danger de mineurs aux États-Unis.
C'est une décision historique prise par un tribunal civil de Santa Fe dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Le tribunal a condamné donc le géant des réseaux sociaux Meta à verser 375 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir mis en danger des utilisateurs mineurs de ces plateformes en les exposant à des contenus à caractère sexuel. Si la loi américaine dédouane les réseaux sociaux des contenus postés par les utilisateurs. En revanche, ces réseaux doivent avertir les clients des dangers potentiels. Alors Olivier Roger, c'est sur ce principe que le tribunal s'est fondé pour condamner Meta.
Oui, Meta fait passer ses profits avant la sécurité. Voilà ce qu'a déclaré le procureur général de l'État du Nouveau-Mexique à l'énoncé du verdict. Le tribunal est le premier aux États-Unis à demander ainsi des comptes aux opérateurs de réseaux sociaux. Son jugement s'appuie sur une enquête remontant à 2023 au cours de laquelle les policiers se sont fait passer pour des mineurs sur les réseaux sociaux du groupe Meta. Ils ont ainsi pu documenter les expositions à des sollicitations sexuelles et surtout étudier les réactions des plateformes et de Meta. Le procureur en a conclu que l'entreprise de Mark Zuckerberg avait dissimulé ce qu'elle savait des dangers d'exploitation sexuelle des enfants sur les plateformes ainsi que des conséquences potentielles sur leur santé mentale. On sait que la loi américaine exonère les plateformes de toute responsabilité quant au contenu diffusé. En revanche, elle les oblige à informer le public sur les dangers existants. Ce qui n'a pas suffisamment été fait par Meta, selon le tribunal. C'est d'ailleurs sur cet aspect juridique que s'appuient désormais les plaignants dans les procès qui les opposent aux réseaux sociaux. Meta et Google, par exemple, sont à la barre des accusés dans un procès similaire qui se tient actuellement à Los Angeles.
Merci Olivier Roger pour toutes ces explications.
Après les élections municipales de dimanche dernier en France, c'est l'heure du bilan et des règlements de compte à Paris notamment.
Eh oui, quelques jours après sa défaite à la mairie de Paris, Rachida Dati a accordé ce matin un entretien au Figaro dans lequel elle livre une analyse de la campagne municipale et esquisse déjà les contours de la suite de son engagement politique. Alors Charlotte Urien-Tomaka, elle n'oublie pas de régler ses différends avec ceux qui ont freiné son ascension.
L'ancienne ministre de la Culture refuse toute lecture défaitiste et dénonce, je cite, une coalition de circonstances de la gauche. Elle affirme avoir incarné une véritable alternance dans une capitale gouvernée par le PS depuis plus de 20 ans. Dans cet entretien, Rachida Dati insiste aussi sur les thèmes qui ont structuré sa campagne, sécurité, propreté et gestion municipale. Fidèle à sa ligne, elle estime que ces sujets restent, je cite, les préoccupations majeures des Parisiens et reproche à ses adversaires de les avoir minimisés. Elle revendique également avoir brisé un plafond politique en rassemblant une partie de la droite et du centre dans un contexte électoral fragmenté. L'ancienne candidate revient aussi sur les alliances de second tour, évoquant un climat politique confus, marqué par des tractations et des recompositions de dernière minute. Durant la campagne, plusieurs rapprochements entre forces de droite et du centre avaient alimenté les tensions. Interrogée sur son avenir, Rachida Dati ne ferme aucune porte. Si elle reconnaît, je cite, une déception, elle affirme vouloir continuer à peser dans le débat public parisien et national. Dans un contexte politique déjà tourné vers 2027, cette prise de parole dans le Figaro apparaît comme une première étape après un revers électoral majeur.
De la musique pour refermer ce journal. Voici Fuckers, duo trublion de l'électro new-yorkaise. Il publie après-demain son tout premier album, très attendu, Oh, c'est son nom. Un avant-goût avec José Marinho qui l'a écouté pour nous.
Voix nonchalante, synthétiseur décapant et un nom provocateur, Fuckers. Dès 2022, ce duo âgé d'une vingtaine d'années enflamme les nuits new-yorkaises. Deux ans plus tard, tournée mondiale en première partie de rockstar comme LCD Sound System et il explose avec ça. Sur cet album, pas vraiment d'histoire à raconter, juste des morceaux pour danser. Et au fond, c'est ce qui revendique Fuckers. C'est aussi une réponse à ceux qui cherchent un sens partout. Ici, on coupe court, c'est direct, priorité à la fête, au lâcher prise des corps.
Hey,
difficile à étiqueter, fuckers mixent tout. Post-punk, techno, rock, pop, ska et ici même dub jamaïcain. Là où d'autres visent la playlist algorithmique, Fuckers mise, lui, sur la trance collective.
Tout juste 13h15 à Paris, la suite d'RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Olivier Sherman. La suite, c'est le sport.
De toute la culture. Session HDR.
Australia. HTR. Le mix de toutes les cultures. C'est sur HTR.
Je suis la femme de toutes les batailles, la sœur, la fille, la mère de tous les millénaires. Être une femme, femme feu de forêt, qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint. Je déambule dans les rues du ciel, vêtue de bronze, corset de perles, collier d'initié. Je traverse les siècles, j'embrasse tous les défis. Au fil de mes morts, je tiens tête à la vie. J'allume le souffle des ombres la nuit. Je suis la prêtresse des forces cosmiques. Je suis les femmes prêtes à éblouir le jour. Je suis les montagnes, les pyramides, les grottes sacrées. Je suis les ventres, berceaux de l'humanité. Je suis la femme de toutes les batailles, la sœur, la fille, la mère de tous les millénaires. Être une femme, femme feu de forêt, qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint. Je suis en mille morceaux, je porte en moi des rêves brisés, des crimes fabriqués qui n'ont cessé de me déshonorer. J'ai vu, j'ai tout vécu, tout entendu. Au fond des rivières, on peut voir briller mes larmes de perles et de cori. Sur les champs de bataille, ma grandeur et mes richesses pillées. Mes minerais, des astres convoités, des vautours me font la cour. Je suis la femme de toutes les batailles, la sœur, la fille, la mère de tous les millénaires. Être une femme, femme feu de forêt, qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint. Sous mes pas, j'abrite des mystères de poussière. Je suis eau, je suis aussi celle qui coiffe la terre avec ma houe. Toutes mes voix savent chanter la joie. Sous les pluies d'éclairs, je lave mes orages pour chanter l'éternité. Femme racine assise sur le trône du temple des esprits, je porte ma couronne de plumes, mes racines, des phares qui éclairent la nuit. Je suis la femme de toutes les batailles, la sœur, la fille, la mère de tous les millénaires. Être une femme, femme feu de forêt, qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint. Qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint, qui jamais.
Filling the buckets overflowing self-pity. What was I to ponder why? Reasons are led hand in hand by the smoke of her cigarette, imparting ways like strokes in her hair.
Homie got a vendetta, but never get it together. Your best friend is sane. I'm looking at life in a different